Donc, si vous avez des questions, bien sûr. On n'a pas tellement l'habitude dans nos cultures professionnelles d'aller voir ce qui se passe du côté de la psychologie cognitive. Parfois c'est déroutant, parfois c'est intéressant, parfois c'est stupéfiant. Je ne sais pas, à vous.
Pas dû être assez attentive, mais il manque un petit élément. Quand vous avez présenté le programme, vous avez parlé d'une initiative de votre part, monsieur le proviseur, ou une demande de la part des enseignants. C'est-à-dire que les personnes qui sont engagées dans le programme étaient des personnes qui étaient volontaires. Ça a été sur quelle sollicitation? Comment ça s'est passé, en fait?
Enfin, là, ce qu'on vous a présenté, c'était le résultat obtenu la deuxième année. C'est-à-dire que la première année, on a travaillé avec le CRES, avec des objectifs assez éloignés, et je vous dis, avec l'idée de mettre en place une prise en charge individualisée des situations d'élèves les plus lourdes. Et dans le cadre de ce projet, on a fonctionné avec une équipe restreinte de 5 ou 6 enseignants moteurs dans l'établissement, et c'est à partir de là qu'on a construit ce qu'on vous a présenté. Et ce noyau s'est un peu étendu maintenant à la dizaine de personnes qui ont suivi la formation.
Moi, je peux quand même rajouter que l'année dernière, les interventions, ça venait du fait qu'il y avait une situation d'urgence aussi. Parce qu'il y a quand même un enseignant qui s'est ramassé une pièce, qui a reçu une pièce métallique. Et il y avait un vrai besoin. À chaque fois, les profs rentraient dans nos bureaux, ils disaient « Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire ?» Il y avait vraiment une demande des enseignants. Par rapport à ça, on fait quoi? Et pourquoi ils jettent? Et pourquoi ils...
Moi, ce qui me sidère dans cette situation et dans le constat qui est fait, c'est que, bon, pourtant, ça va faire 2 ans qu'on travaille avec Béatrice Lavelle, et y compris maintenant, j'ai du mal à admettre la réalité de la situation et la réalité des compétences acquises des élèves que l'on a à prendre en charge et l'ensemble des problèmes que ça pose. Forcément, comme on le présente, du coup, on se dit ben, quelle est la situation, l'évaluation des compétences des élèves qui nous arrivent. Donc on va chercher du côté du répertoire de compétences du socle commun. On parle des compétences sociales nécessaires et d'initiatives prévues dans les piliers 6 et 7. Qui est capable d'évaluer ces compétences chez nous? Et quand on les évalue, comme nous, ben, le résultat en est quand même très inquiétant. Et même sur les choses simples, moi je vous dis, quand j'entends dire, j'en parlais tout à l'heure, que tel élève n'a pas construit la notion de verticale, j'arrive pas à le croire. On le constate, et même en me le disant, je l'entends, mais j'arrive pas à réaliser ça. Qu'un élève n'a pas de compétences minimum de décentration, moi en tant qu'enseignant, je me sens complètement démuni en face d'un élève qui n'a pas conscience que je puisse penser différemment de lui.
Moi, j'aimerais savoir si il a été posé la question, vous avez donné des espaces de parole aux élèves, leur ressenti, ou qu'est-ce qu'ils pensaient du fait qu'ils étaient élèves en lycée professionnel. Parce que, alors, je vous pose cette question parce que j'ai été surveillante, c'était encore surveillante à l'époque, au lycée Seguin, qui est une cité scolaire sans bas Seguin. Et souvent, les élèves renvoyaient le fait qu'ils étaient, eux, élèves du lycée professionnel, donc des rebuts, enfin, beaucoup de choses très, très, très négatives sur ce qu'ils étaient, pourquoi ils étaient au lycée Marc Seguin. Souvent, ils n'avaient pas choisi, d'ailleurs, ni leur filière, ni l'établissement. Et qu'en parallèle, ils étaient avec des élèves de lycée d'enseignement général et qui ressentaient aussi du mépris de la part des lycéens d'à côté, des professeurs d'à côté... et que les professeurs aussi ressentaient ce mépris de la part de leurs collègues enseignants au lycée d'enseignement général. Donc, est-ce que c'est des choses qui ont été abordées avec eux? Parce qu'en tout cas...
En rigolant, et on dit toujours on est au LEP, on est des lépreux. Ouais, non, au niveau de la valorisation, c'est très très fort. Alors, au niveau des enseignants déjà, on a eu beau mélanger toutes les boîtes aux lettres, à l'initiative de l'ancien chef d'établissement, les profs du lycée professionnel sont totalement séparés, ne se mélangent pas avec les profs du lycée d'enseignement général. Mais par rapport à la valorisation, cette année justement, enfin depuis 2-3 ans, on travaille un peu sur un accueil et sur une sorte de valorisation, on essaye de monter des actions pour valoriser les élèves. C'est très très difficile parce que c'est pas tellement qu'ils sont déjà en lycée professionnel, mais ils sont sur des sections industrielles et qu'ils n'ont pas forcément choisi. Donc, par exemple, chez nous, l'image de qu'ont les élèves qui sont en électricité est quand même plus valorisante parce qu'eux, ils ont tous choisi de venir faire de l'électricité, alors que chez les techniciens d'usinage, il y en a zéro. Il n'y a pas un seul élève, qui souhaitait venir ici. Et ça, depuis des années. Et là, comme on est en train d'organiser une fête du lycée, hein, c'est la première, la fête des lycéens. Donc, c'est le CVL qui l'organise. Mais c'est marrant parce que c'est les élèves du lycée qui organisent. Mais quand il a fallu valoriser les élèves, c'est-à-dire qu'il va y avoir un spectacle, c'est quand même une grande majorité des élèves du lycée professionnel. De ce gars qui vont chanter, danser. Donc là, c'est un petit peu par des actions un petit peu comme ça qu'on peut essayer de les valoriser. Mais c'est vrai que pour eux, ils ont cette idée que on a fait une assemblée générale de délégués la semaine dernière. Ils se plaignent beaucoup de ne pas avoir de voyage, de pas avoir de sortie. Pour eux, on ne fait rien pour eux. Et en même temps, par exemple, ils ont eu l'impression qu'ils sont plus nombreux. Ils sont 250. Ils sont 680 au lycée, et ben les élèves du Seguin sont persuadés qu'ils sont plus nombreux. Et ils pensent que les autres ont peur d'eux. Ils disent mais ils se cachent, ils sont dans les couloirs, on a réussi à rassembler la vie scolaire. Avant il y avait deux vies scolaires. Et c'est vrai que depuis que la vie scolaire est réunifiée, les élèves ont quand même plus un sentiment d'être ensemble. Mais c'est vrai que les élèves de Samba ou les profs de Samba, des fois, nous regardent. C'est pas la même culture. Donc, on fait beaucoup de bruit, on est bruyant. Ça leur a un peu pourri la vie à ceux de Samba.
Est-ce que vous avez mesuré un effet sur, justement, leur volonté ou, en tout cas, leur envie d'apprentissage dans le lycée professionnel?
Oui, mais la question de l'estime de soi, de toute façon, elle est très présente, c'est ce que je vous disais, et en plus, elle s'auto-entretient. Ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'ils ont une représentation d'eux-mêmes aussi par rapport à là d'où ils viennent. Enfin, ils parlaient souvent du fait qu'ils venaient d'un quartier difficile, de leurs origines, de leur mode de vie. Et donc, pour eux, le monde est de toute façon un peu coupé en deux et ils font partie de la moitié qui est la plus difficile à vivre. Donc, c'est vrai que leur image d'eux-mêmes, elle est assez marquée par ça. Et dans le même temps, tout ce qu'on vient de dire, ça ne fait qu'entretenir cela, parce que précisément, ils sont conduits à avoir une attitude finalement assez passive du point de vue de l'expression de leur point de vue, de l'affirmation de soi, etc. C'est la raison pour laquelle il me semble important de pouvoir effectivement leur offrir des espaces d'expression dans lesquels ils puissent apprendre justement à affirmer leur point de vue et à élaborer les différences et les singularités. Mais je dirais qu'il y a non seulement cette impression, mais en plus une difficulté finalement à dépasser ça du fait des limites qu'on vient d'évoquer.
Ce que je voudrais préciser, donc on a trois filières, hein, électrotechnique, maintenance et productique. Moi j'avais dans l'idée d'une filière sans problème, la filière électrotechnique, parce que tous les élèves avaient demandé à venir. Effectivement, c'est une classe qui posait le moins de problèmes. Et au niveau des résultats, on doit constater qu'en fait, c'est des élèves au niveau cognitif qui sont dans une situation pas meilleure, si ce n'est pas pire, mais qui sont simplement meilleurs élèves, plus dociles, pour pas dire plus soumis, mais avec les mêmes difficultés au niveau cognitif et la même difficulté à rentrer dans la réflexion. Et moi, ça m'est arrivé d'aller voir un enseignant en classe en difficulté, de sortir hors de moi, parce que pendant une heure, j'ai vu un enseignant qui n'a fait que donner des recettes de cuisine pendant une heure. Maintenant, je vois mal ce qu'il aurait pu faire d'autre.
Alors, moi, je voulais... j'avais deux questions. Enfin, une première, une remarque et une question. Alors, pour la remarque, je trouve que... Enfin, j'ai l'impression que ce regard purement pratique, cette perception concrète qu'ont les élèves donc, de votre lycée, mais d'autres élèves dans les milieux défavorisés, ils ont une perception très pratique des savoirs, des notions. Et ça rejoint ce que disait M. Rayou tout à l'heure, quand il y avait cet élève qui avait avait répondu, on lui demandait la suite d'une rédaction, et elle répond « Ah non, mais cet enfant, on ne sait pas ce qui nous attend, si elle sort. » On parlait de la fugue ce matin, je ne sais pas si vous en souvenez. La réponse était une réponse pratique, c'est-à-dire on attendait de cet élève qu'elle invente la suite de l'histoire, et elle a répondu de façon pratique. Et on retrouve cette perception-là. Et en fait, j'avais une question. Est-ce que... Vous avez été surprise de voir qu'il y avait des professeurs qui ignoraient tout simplement les mécanismes cognitifs qui avaient derrière l'apprentissage des élèves. Mais en réalité, l'UFM, enfin les formations dans les formations qu'on reçoit, nous les enseignants, on n'est pas du tout invités. On est spécialistes de nos matières, mais on n'est pas du tout spécialistes des activités cognitives qui sont mobilisées pour acquérir les notions, les savoirs qu'on prodigue. Voilà, donc ça, c'est... Est-ce qu'on peut être un bon professeur aujourd'hui si on ne s'interroge pas sur ces mécanismes-là? Parce que pour les déceler chez les élèves, encore faut-il que nous-mêmes, on ait été formés à ça, quoi. Voilà.
Oui, moins 5. Une petite remarque. Bon, alors finalement, est-ce que le monde est bien ou pas coupé en deux, hein, comme ça a été dit tout à l'heure, avec des dominés et des dominants? La question, elle n'est pas facile quand même à répondre, mais je vais quand même partir du principe que oui. Parce qu'il y aurait d'un côté... Alors, moi, ce que je comprends de ce que vous dites, c'est qu'il y aurait d'un côté des élèves qui ne disposeraient pas de l'autonomie requise et que donc il faudrait par des moments spécifiques mettre en place des situations dans lesquelles ils puissent gagner en autonomie. Mais ma question, c'est que à l'école, est-ce que ça passe dans une autonomie et une compétence par rapport au savoir scolaire ou par rapport à autre chose? Alors, dit autrement, est-ce que c'est dans les moments de vie de classe qu'on règle les problèmes d'apprentissage? Dit autrement, est-ce qu'ils s'agitent parce qu'ils ne comprennent pas, ou est-ce que c'est parce qu'ils ne comprennent... Enfin, vous voyez, c'est-à-dire, est-ce qu'on n'a toujours pas envers ces élèves-là, et Patrick nous l'a un peu indiqué ce matin, et Fabrice aussi d'une autre façon, cette idée que, à l'école, il faut... Évidemment, ils ne sont pas élèves comme on voudrait qu'ils soient. Donc, où sont les solutions? Alors, je ne doute pas que les enseignants ne soient pas ce qu'on aimerait qu'ils soient comme enseignants, que les situations de classe ne soient pas ce qu'on aimerait qu'elles soient. Mais de notre point de vue à nous, de personnes qui essayons d'aider les enseignants à travailler au quotidien, avec nos différents regards et nos différents métiers, sur quoi est-ce qu'il faut qu'on focalise notre attention, nos efforts, nos formations, nos entrées? Est-ce qu'il faut les valoriser par plus de sorties, ces élèves-là? Ou est-ce qu'il faut les valoriser par essayons de comprendre pourquoi il n'arrive pas à faire la production d'écrite quand il est en CAP post-SECPA? Moi, je viens d'aller filmer deux collègues en lycée professionnel, dans un lycée professionnel pourtant assez valorisé, qui a des filières automobiles, c'est-à-dire des filières qui, a priori, sont plus valorisées que certaines des formations dont vous parlez, où les gamins, c'est du 19e choix, etc. Eh bien, j'ai vu des profs qui m'ont dit « Je crois que mes 4 dernières années vont être plus difficiles que mes 30 premières. D'abord parce que je vieillis, mais parce que j'en suis à me dire que je suis jaloux de mes collègues du CFA. » C'est-à-dire qu'il y a tellement d'évolution de nos publics que je ne sais plus ce que c'est mon métier. Et quand j'ai été filmé la manière dont ils conduisaient, à la fois en salle de techno et en cours de français, les apprentissages de leurs élèves, cette question que vous avez posée là tout à l'heure, c'est, si je reprends mes notes, ah oui, c'est vrai que la co-animation, le regard croisé, ça ne va pas de soi, parce qu'en lycée professionnel, on a des normes, des valeurs éducatives et tout très, très différentes. Mais du coup, moi, en tout cas, ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les aider à mieux réfléchir sur ces problèmes d'apprentissage scolaire que rencontrent les élèves? Et j'aurais plutôt tendance à dire que c'est ça, moi, qui me semble le cœur de la difficulté de ces élèves en lycée professionnel.
Je veux bien me lancer, moi. C'est pas une logique binaire. c'est forcément une relation dialogique, et c'est les deux en même temps. C'est pas compétence cognitive ou jugement moral. Quand on travaille sur le jugement moral, on travaille sur les compétences cognitives, et quand on travaille sur les compétences cognitives, on fait évoluer le jugement moral. Et c'est les deux ou rien. C'est les deux ou rien. Ensuite, en lycée professionnel, on a des contraintes. Moi, comme chef d'établissement, il arrive un moment où l'enseignant, il doit maîtriser sa classe entière. Donc je peux, pendant un certain temps, décider qu'on ne travaillera qu'en demi-classe, mais ça a forcément une limite, et si on a atteint l'objectif. Donc si moi, j'ai jusqu'à l'année dernière toujours dit aux enseignants avec qui j'avais affaire, on apprend aux élèves à maîtriser la conception de la règle en cours. Et ça se fait pendant l'action pédagogique. Ben, je ne dirai plus la même chose maintenant. Je ne dirai plus la même chose maintenant et je suis capable de le défendre. Et je suis capable de défendre que si on prépare des séances où on va travailler, réfléchir, aider les élèves à réfléchir sur le jugement moral, pendant ce temps-là, on travaillera aussi sur les compétences cognitives, parce que sinon, ils n'évolueront pas sur leur jugement moral.
Oui, effectivement, parce que y a la question des compétences cognitives et du jugement moral, de toute façon, par exemple, c'est la réversibilité logique qui est impliquée dans les compétences cognitives, ce qui correspond à la réciprocité du point de vue du jugement moral. Donc effectivement, il s'agit d'avoir un fonctionnement dans lequel on vient s'interroger sur les situations. Et je reviens à la prise de conscience. La prise de conscience, elle est mobilisée aussi bien dans l'un que dans l'autre. Et puisqu'on va chercher à favoriser la prise de conscience, ce qui est commun entre les deux, c'est les modalités qu'on va créer pour que ça puisse émerger. Ces modalités, ce sont des modalités dans lesquelles on va avoir un support de médiation autour duquel on va réfléchir tous ensemble. Et en même temps, ça va être des modalités dans lesquelles chacun va devoir s'exprimer et réfléchir à une situation et écouter les autres pour pouvoir y réfléchir. Après, ce qui va être élaboré, c'est soit une règle de maths ou alors la compréhension d'un secteur de l'histoire ou quelles ont été les causes, quelles ont été les conséquences. Donc on va aboutir à quelque chose qui relève plutôt du pédagogique et qui va se faire en classe habituelle. Ou alors on va élaborer une règle en se disant, voilà, il faut arriver à l'heure parce que ça va avoir telle ou telle conséquence. Donc je dirais que ce qui va être élaboré au final comme règle, ça va être une règle de maths, ça va être un événement qu'on va comprendre d'un point de vue historique, ou ça va être une règle du règlement de l'établissement. Mais sur les modalités, c'est vrai que c'est une mise en route d'un mode de fonctionnement dont le vecteur et celui qui manque, c'est la prise de conscience et la sollicitation à la prise de conscience.
Petite illustration, Isabelle qui est formatrice.
Oui, alors moi je suis formatrice, mais j'ai enseigné 28 ans en lycée professionnel et toujours en zone d'éducation prioritaire et toujours à plein temps et toujours en lycée professionnel industriel. Voilà, donc je veux simplement dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient d'ajouter M. Castano, c'est-à-dire que pour moi, tout se règle dans un vivre ensemble au sein de la classe, et que dans ce vivre ensemble, on est capable à la fois de travailler sur des connaissances, des contenus, et à la fois aussi de donner aux élèves un jugement moral ou de les aider à construire leur jugement moral par un temps de réflexion, mais ce temps de réflexion, bien souvent, il est en plein... en grosse rencontre ou en rencontre difficile avec les exigences que sont les exigences institutionnelles, notamment des exigences de la part des inspecteurs sur le respect d'un programme. Quand on arrête son cours pour que des élèves de lycée professionnel puissent construire, réfléchir ensemble, pourquoi est-ce qu'il faut être à l'heure ? Pourquoi ça a gêné la classe ? Comment est-ce qu'on peut laisser la parole à chacun au moment d'un débat en classe? Eh bien, bien évidemment, cela prend du temps. Et on a bien souvent l'impression qu'on est pressé et pressuré pour arriver à terminer à temps. Alors qu'il me semble que dans nos classes, bien évidemment, on est capable de travailler à plusieurs et d'aider les élèves à se construire.
Moi, j'avais envie de poser une interrogation par rapport au dispositif lui-même. Parce que j'entends dans la présentation que vous nous faites, vous commencez à un moment donné, c'est-à-dire la décision de lancer le dispositif est prise. J'entends que le dispositif a permis un basculement dans ce qu'on imaginait au départ comme solution, et puis le processus va nous amener à imaginer d'autres solutions. Voilà. avec une espèce de surprise hein, pour nous, pour moi en tout cas qui l'entend, une espèce de surprise dans à quoi on arrive finalement au bout de ce dispositif. Et je le raccordais à ce que disait Patrick Rayou ce matin, quand il nous proposait une entrée qui essaye d'articuler la dimension contextuelle et la dimension relationnelle. Et je me disais, ce qui m'a frappé finalement dans votre récit, hein, dans la façon dont vous le posez, c'est comme si tout commençait avec l'arrivée des élèves. Et d'ailleurs, je l'entends comme ça, puisqu'on parle des entrants, hein, c'est-à-dire comme s'ils arrivaient là, et que là, tout commençait. Et donc on commence dans le dispositif par une photographie où on va rapporter, mesurer finalement la position des élèves à l'égard d'une norme, hein, même si elle est théorique, hein, avec des variations, avec des, j'entends. Et du coup, ça génère une première image, en tout cas que moi j'ai reçu comme ça, ça génère une première image de cette lecture finalement normative, de se dire ben, quel est le degré de handicap en fait, de nos élèves par rapport à cette norme-là. J'entends que le terme, c'est moi qui le projette, hein, qui l'entend. Et si je le projette, c'est parce que ce que j'entends bien, c'est que le diagnostic que l'on fait, c'est un diagnostic sur le degré de capacité ou d'incapacité, hein, ce qui est l'entrée de la définition du handicap par la question de l'incapacité. Et voilà, j'avais envie de ramener un petit peu cette interrogation autour de ce dispositif, parce que du coup, pour moi, ça génère effectivement une question sur l'espèce de, comment dirais-je, dans le récit de creux par rapport au contexte et par rapport à la façon dont ça s'est construit finalement cette situation-là. J'entends que dès que des questions sont posées, on revient à des éléments d'histoire et je découvre, puisque je ne connaissais pas l'établissement, je découvre que finalement dans la cité scolaire, il y a le LP et puis il y a l'autre partie, et puis qu'il y a des séparations entre enseignants, et puis que les élèves ont un vécu dans l'établissement et qu'ils se sentent vus comme ça par les autres, et que, voilà. Dès qu'on ramène de l'histoire et du contexte et du processus de ce type-là, j'ai le sentiment que ça peut éclairer tout à fait autrement cette problématique-là.
J'ai comme l'impression qu'avec deux interventions, on tourne en rond. J'écoutais l'intervention de M. le proviseur du lycée, qui disait, à un moment, je dis aux enseignants, ils doivent prendre la classe entière. Bon. Il y a des contextes où les enseignants, face à des situations, l'injonction ne suffit pas. Quand bien même elle serait d'ordre hiérarchique, il y a des situations de fait où c'est très difficile. J'ai écouté l'intervention de la collègue prof de français. Elle disait, bon, on était à l'UFM, on n'a pas appris tout ça. Donc comment on peut apprendre à faire, comment on peut faire ce qu'on n'a pas appris à faire? C'est la grande question pour les enseignants. J'ai écouté la collègue formatrice qui disait, il faut travailler à la fois le jugement moral et les compétences cognitives. Il me semble que dans ces situations, il y a le travail de l'enseignant, il y a bien entendu la dimension administrative, mais il y a la formation. Ça fait plusieurs décennies que je suis formateur. Hein, j'ai commencé par l'école normale, j'ai formé des PEGC, des instituteurs. Et là, j'en suis à former des professeurs de lycée et collège et des professeurs des écoles. Et lorsque je regarde sur une trentaine d'années, les conditions dans lesquelles les enseignants, en particulier du second degré, exercent, ce sont des conditions, je pense que c'est un peu partout dans toutes les académies, particulièrement difficiles. Et en particulier, vous qui parlez de lycée professionnel, je pense que il y a un de vos collègues dans mon académie qui vit une situation inouïe depuis la rentrée. Une trentaine d'élèves ont été exclus. Et il y a déjà eu 4 ou 5 arrêts de l'établissement. Des agressions une dizaine depuis la rentrée de septembre. Et les professeurs ne savent plus où mettre la tête. Le rectorat est complètement dépassé. Alors, ça veut dire que tous ces problèmes-là doivent être traités en lien, et je dirais de façon systémique. Il y a la classe, d'accord ? Il y a la formation, et il y a l'établissement. Et le gros problème dont je me suis rendu compte, peut-être sur la fin de ma carrière, c'est que les questions de perturbation scolaire, et en particulier les questions de violence dans les établissements difficiles, et en particulier les collèges et les lycées, ce sont les établissements, les lycées professionnels, ces questions-là ne sont pas traitées, disons, je dirais en amont, et elles font toujours l'objet donc, de réponses ponctuelles, d'accord, lorsqu'il y a des incidents. Or, il me semble qu'aujourd'hui, c'est une dimension incontournable de la formation des enseignants et des politiques à mettre en place dans les établissements. Je crois que si on ne prend pas ce problème-là à charge comme le problème de la formation dans les disciplines, on sera à même à répéter pratiquement les mêmes choses. Alors, ça veut dire que déjà au niveau de la formation, alors c'est là qu'il faut vraiment commencer par le commencement. Formation des enseignants. Moi, je me suis rendu compte, c'est vrai que la collègue a raison. Moi, j'avais 2 heures pour former des enseignants sur des questions relatives, 4 heures peut-être au maximum, à la relation pédagogique. Bon, relation maître-élève, c'est insuffisant. Et quand bien même un enseignant aurait eu ça, je pense qu'il a parfaitement le droit de dire qu'on n'a pas été formé dans ce domaine. Et je ne parle même pas à des questions plus pointues, plus graves, s'agissant des perturbations et des violences scolaires. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être commencer par là. Il faut certainement continuer par l'enseignant dans sa classe, mais les problèmes de perturbations dans les établissements ne sont pas, à mon sens, réglés uniquement par un enseignant dans sa classe. Je crois qu'il y a une dimension aussi qui tient de la culture du système éducatif en France. C'est qu'on a une vision que les problèmes, et surtout les problèmes de cette nature, sont des problèmes relatifs à un individu, c'est-à-dire l'enseignant seul dans sa classe qui se débrouille. Celui-là a des problèmes, celui-là n'en a pas. Tant mieux pour le dernier, tant pis pour l'autre. Bon, ben, c'est un peu la nature des choses qu'il veut. Je crois que les problèmes ne se posent pas comme ça. C'est de façon globale aussi qu'il faut les prendre à l'intérieur d'un établissement. Il faut penser à des projets, des politiques pour traiter ces questions bien avant qu'elles ne prennent la forme de problèmes. D'accord ? Et ça veut dire aussi que s'il y a une politique dans l'établissement, s'il y a un projet dans l'établissement prenant en compte ces dimensions, bien évidemment, ça doit pouvoir trouver des répercussions et des suites au sein de la classe. Et il va de soi aussi que l'enseignant, dans le contexte dans lequel fonctionne le système éducatif, il doit pouvoir aussi en tirer des bénéfices. Donc je crois que c'est sur ces 3 niveaux qu'il faut lier, d'accord ? La formation, le travail au sein de l'établissement, hein, de l'ensemble, et le travail particulier de l'enseignant dans sa classe.
Moi, c'était juste pour une petite remarque, pour rebondir sur ce que vous disiez, Monsieur Dume, par rapport à l'importance du contexte. Parce qu'il me semble qu'effectivement, le caractère tout à fait énigmatique, mystérieux, des difficultés rencontrées par vos étudiants, enfin, nous qui nous paraissent complètement incompréhensibles, effectivement, peuvent être éclairés par ce contexte, et ça permet de rendre compte et de sortir de cette espèce de stupéfaction. Et moi, il me semble qu'à un moment donné, vous avez donné un exemple. Alors, je ne suis pas du tout en mesure de juger, les expériences qui ont été faites, etc. J'y connais absolument rien. En revanche, il me semble que l'exemple que vous avez donné de l'incapacité d'un étudiant de se décentrer, donc c'était l'exemple de cette situation de classe où les étudiants ont refusé de prendre la parole pendant 2 heures, et lorsqu'on leur a demandé, alors, à votre avis, qu'a ressenti l'enseignant, l'étudiant vous a répondu, je n'en sais rien, ne me l'a pas dit. Et moi, il me semble que cet exemple ne colle pas, en fait, parce qu'il n'est pas du tout neutre d'un point de vue cognitif. Là, en l'occurrence, pour l'étudiant, enfin pour l'élève, le fait de se mettre à la place d'un enseignant, ça implique pas seulement de changer, de se décentrer, ça implique quand même de prendre la place de quelqu'un qui, là, dans cette situation, est dans une situation de domination, en plus, qui est encore plus éclairé par le contexte du lycée dans lequel il se trouve, etc., etc. Personnellement, quand je vais voir mon banquier, je ne sais pas ce qu'il pense. Enfin, je suis bien... Voilà, j'ai plusieurs hypothèses, mais j'ai du mal à trancher. Enfin, c'est juste pour dire que le contexte permet quand même de mettre en perspective ces blocages cognitifs et que permettre de.
Mais effectivement, mais cette situation que j'évoquais, c'était pas une situation dans laquelle on était dans une évaluation. C'est un exemple en classe. Les situations d'évaluation, en fait, c'était l'épreuve des trois immeubles, la causalité. Enfin, c'est la raison pour laquelle, précisément, à partir des observations qu'on avait faites en classe, on a souhaité aller plus loin que ces premières représentations pour essayer de voir ce qu'il en était véritablement du point de vue du développement socio-cognitif et effectivement dépasser des situations plus... pour avoir une évaluation plus objective, je dirais, mais je suis d'accord avec vous, ça peut impliquer beaucoup de choses que de dire non pas ce que ressentait, ce que pensait l'enseignant à ce moment-là, oui.
Oui, non, c'était juste pour souligner que cet exemple était biaisé par rapport à votre expérience.
Oui, mais enfin, c'était un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire que le fait de se rendre compte que dans un diagnostic, les capacités de décentration, effectivement, étaient... semblait mettre les élèves en difficulté, ça a des conséquences sur, ensuite, le fait de se représenter le point de vue d'autrui.
Mais là, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte.
Non, mais...
Là où je vous suis, c'est parce qu'il y a des confusions. Oui. Dans le modèle, par exemple, sociologique, c'est vrai qu'il y a des confusions sur le sens que les uns et les autres donnent aux situations. Donc, quand, par exemple, là où je vous suis, c'est-à-dire que pour l'enseignant, c'est évident que, par exemple, la situation problème, elle est destinée... Imaginons un enseignant qui donne des situations problème ou qui pose des questions, comme l'a dit Patrick ce matin, en faisant semblant qu'il n'a pas les réponses et que c'est la réponse des élèves qui l'intéresse. On sait très bien que les élèves des milieux populaires, il y a des malentendus par rapport à ces situations-là. J'ai filmé il n'y a pas longtemps des gamins en CP. Il y avait un enseignant qui disait « Bon, alors, pour calculer combien il faut de rouleaux de papier peint pour refaire la chambre, combien, etc. » Et il y a un petit qui a dit « Si tu ne sais pas, si tu demandes à mon père, il va te le dire. » Et donc, la difficulté qu'avait le gamin à comprendre que la situation pédagogique qui était en jeu là, elle avait une fonction référée à la norme scolaire et pas référée à la norme personnelle, je suis d'accord que c'est quelque chose qui est très... Enfin, qui n'est pas également distribué. Le fait qu'un gamin de lycée professionnel ne donne pas sens à une situation... L'autre jour, j'ai vu une prof qui faisait travailler sur l'humour noir, ses élèves. C'était super intéressant. C'est une situation problème dans laquelle elle faisait appel énormément, y compris à leur jugement moral. Et c'était très difficile parce que les gamins ne comprenaient pas la différence qu'il y avait entre faire une blague dans un roman et faire une blague avec son voisin. Le fait qu'on puisse... utiliser des registres différents dans les situations culturelles et dans les situations de la vie courante, c'est des choses qui, effectivement, c'est le boulot de l'école. Et c'est très difficile, mais c'est très difficile, je ne sais pas comment, enfin, aussi bien socialement que psychologiquement, quoi. Et c'est là-dessus où il y a un travail énorme à faire avec les enseignants. Je suis d'accord avec vous là-dessus.
Juste deux mots. Il y avait un stage ici la semaine dernière sur la maternelle. Il y avait une intervenante qui s'appelle Sylvie Seb, qui est un peu aussi sur la psychologie cognitive, et qui montrait bien que, ce constat d'incapacité des élèves au sortir de la scolarité obligatoire, il est le fruit d'un processus où on n'apprend pas certaines choses à certains élèves. Voilà. Et elle parlait bien, vous avez parlé à un moment de l'environnement qui ne sollicitait pas les enfants sur certains registres, notamment cognitifs, réflexifs, etc. Et elle incluait bien dans ce, dans, dans ce mot environnement, l'environnement scolaire. Voilà. Et ça fait partie des questions qu'on va avoir à se poser et à travailler cette semaine, c'est comment travailler ça à l'école et pas simplement se remettre au fait que certains l'apprennent de leur famille ou pas. Voilà. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler de tout ça.
Oui, moi, je voudrais juste dire quelque chose qu'on n'a pas dit. Quand même, parce que c'est votre intervention. Hein. Le changement majeur de notre projet, c'est qu'on passe d'une recherche d'une prise en charge individualisée à la problématique de la prise en charge de la classe. Hein. Et après, moi, je regrette, on ne présente pas une situation particulière à Marc Seguin, on présente une situation propre, à mon avis, à tous les lycées professionnels industriels, qui est la conséquence du fonctionnement du collège. Hein, où là, on pose clairement la question des compétences et puis du fonctionnement. Mais bien sûr, bien sûr. Et quand on dit pas de sollicitation, je regrette, l'école renforce l'handicap social de départ en ne sollicitant pas ces élèves-là, qui, au bout du compte, se retrouvent tous dans les lycées professionnels comme les nôtres. Ça tardait à venir, donc je le dis avant de finir.
Et par cette phrase, on est bien dans le thème de la journée.
Et c'est ce qu'on a entendu la semaine dernière aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils en arrivent à travailler au lycée, les enseignants arrivent à travailler au lycée, ce qui n'a pas été appris avant. Et c'est ça qui, à un moment donné, qu'on se coltine à apprendre avec les élèves, ce qui n'a pas été appris ailleurs. C'est ce qui me semble être ce qu'on a à travailler ensemble.